une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 11 avril, ravi de vous retrouver. Nous allons une nouvelle fois parcourir le monde en revivant les principaux événements de la semaine sur la planète. Merci de votre fidélité. Rendez-vous avec l'actualité africaine et vos messages après le flash. Aujourd'hui, à l'occasion du sommet des Amériques à Panama, nous sommes en compagnie de Maurice Lemoine. Il vient d'écrire « Les enfants cachés » du général Pinochet, un livre publié aux éditions Don Quichotte. Bonjour Maurice Lemoine.
Bonjour.
Ça vous va bien, je trouve, les éditions Don Quichotte?
En tout cas, j'aime bien. Je ne sais pas si ça me va bien, mais j'aime bien.
Alors, vous êtes un spécialiste de l'Amérique latine, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. On va beaucoup parler de ce sommet des Amériques qui a lieu en ce moment, Maurice Lemoine, mais vous avez fréquenté l'Amérique latine dans tous les sens. Vous avez voyagé. Vous la connaissez parfaitement, cette Amérique latine.
Non, je crois qu'il faut rester modeste, même quand on a passé 40 ans de sa vie à parcourir l'Amérique latine, on ne connaît pas encore tout. Il m'arrive encore des moments où je ne comprends pas ce qui se passe dans telle ou telle partie du continent.
L'Amérique latine politique, l'Amérique latine aussi des peuples, des sociétés, c'est ça qui vous intéresse surtout. Et ce sommet des Amériques, on va y revenir dans un instant, mais très brièvement, est important, plus important que les autres?
Il n'est pas forcément plus important que les autres, parce que le premier sommet des Amériques a eu lieu en 1994, donc tous les 3 ou 4 ans on a un sommet. C'est sous l'égide de l'Organisation des États américains. Il se trouve que depuis 1994, Cuba bien évidemment ne participe pas, puisque Cuba a été expulsé de l'OEA en 1962. Donc on peut dire effectivement que ce sommet des Amériques va être exceptionnel, dans la mesure où, pour la première fois, on va avoir, tout le monde le sait, la présence à la fois du président des États-Unis Barack Obama et du président cubain Raúl Castro. En ce sens, on est dans un sommet un peu exceptionnel.
Alors nous allons évidemment en reparler, mais avant l'Amérique latine, Maurice Lemoine, partons pour le Japon. C'est comme ça dans cette émission, on voyage beaucoup, avec en plus un sourire, car nous allons parler des centenaires. Ils sont nombreux dans le pays, et plus particulièrement d'une centenaire qui fait du sport comme une jeunette. Correspondance lundi de Frédéric Charles.
Centenaire dans un Japon qui vieillit le plus vite au monde, c'est banal. Mais avoir à cet âge des jambes et des bras de 20 ans ou presque et parcourir en dos crawlé en petit bassin 1500 mètres, ça l'est beaucoup moins. Cet exploit qu'aucun autre centenaire n'avait réussi avant elle, Mieko Nagaoka vient de l'accomplir dans la préfecture de Ehime, à l'ouest de Tokyo, en 1h, 15 minutes et 54 secondes. « Je veux nager jusqu'à 105 ans », annonce déjà la vieille dame. Dans sa jeunesse, elle n'aimait pas le sport. Elle ne s'est mise à nager qu'à 80 ans, pour soigner des douleurs à un genou. 19 ans plus tard, à 99 ans, dans la catégorie des 100 à 104 ans, elle nage ses premiers 1500 mètres dans un bassin olympique et publie un livre. Le Japon est le pays où les super seniors démontrent des capacités physiques à faire pâlir d'envie Arnold Schwarzenegger. L'un d'entre eux est l'alpiniste le plus âgé à avoir conquis l'Everest. Un autre détient le record du monde du 100 mètres des 100 ans en 29 secondes et des poussières. Il est surnommé Golden Bolt en référence à Usain Bolt, la star jamaïcaine de l'athlétisme.
Une semaine d'actualité donc sous tous ses angles, à podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr.
7 jours dans le monde.
Nous allons parler maintenant, Maurice Lemoine, du 7e sommet des Amériques qui se tient donc en ce moment à Panama. Le président vénézuélien, et là ça va directement vous intéresser, Nicolas Maduro, s'est félicité jeudi des propos apaisants tenus par son homologue américain Barack Obama à la veille de cette rencontre. Il pourrait, ces propos selon lui, ouvrir la voie à un réchauffement des relations entre les deux pays. Ces relations historiquement tendues se sont encore dégradées le mois dernier lorsque les États-Unis ont qualifié le Venezuela de menace pour leur propre sécurité et infliger des sanctions à 7 hauts fonctionnaires soupçonnés d'atteinte aux droits de l'homme dans la répression des manifestations contre le gouvernement de 2014. Caracas, Julien González.
C'est en conquérant que Nicolas Maduro est apparu depuis le palais présidentiel ce jeudi, veille de la grande rencontre. Il y a 3 semaines, le président vénézuélien a lancé une campagne pour rassembler des millions de signatures dans le pays. Le but, s'opposer aux dernières sanctions américaines. Et depuis, à chaque intervention, il demande l'annulation pure et simple du fameux décret américain. Avec cette croisade anti-impérialiste, la stratégie pour Nicolas Maduro était triple. Fédérer bien sûr le plus possible de Vénézuéliens contre un ennemi commun. Contre-attaquer la communauté internationale qui accuse son gouvernement de violation des droits de l'homme, mais aussi et surtout dévier l'attention trop grande portée sur la crise économique. Une bataille qui a finalement forcé Barack Obama à réajuster son discours ce jeudi. Virage à 180 degrés, le président américain a déclaré que le Venezuela n'était pas une menace pour les États-Unis. Il disait exactement le contraire il y a quelques semaines et Barack Obama appelle même au dialogue direct avec Caracas. Pour autant, les sanctions contre les 7 fonctionnaires et ex-fonctionnaires vénézuéliens restent toujours d'actualité. Cette inflexion devrait cependant avoir le mérite de baisser les tensions face à Caracas. Tout sourire et le ton plein d'espoir, Nicolas Maduro s'est immédiatement félicité hier de ses déclarations qui pourraient ouvrir, selon lui, une nouvelle ère diplomatique.
Alors, Maurice Lemoine, ce sommet est évidemment à suivre dans nos différents journaux, ce matin notamment. Alors, ce sommet est important. Sur notre antenne, il y a quelques heures, Roberta Jacobson, la secrétaire d'État adjointe des États-Unis, disait à Anne-Marie Capomaccio, on a diffusé ça sur l'antenne, nous ne sommes pas à la source des problèmes du Venezuela, nous voulons simplement créer un espace politique plus large. Un auditeur, Ibrahima en Guinée, nous demande pourquoi les relations entre les États-Unis et l'Amérique du Sud ont toujours été mauvaises, et notamment on peut se poser la question à propos du Venezuela.
Alors, sur l'Amérique latine en général, en gros, depuis la doctrine de Monroe en 1823, les États-Unis considèrent que l'ensemble du continent, c'est-à-dire y compris l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, sont leur chasse gardée. Bon. Avec le Venezuela, la difficulté, là on est maintenant en 21e siècle, les difficultés ont commencé avec l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez, qui a été le premier des présidents qu'on pourrait appeler de gauche ou de centre-gauche arrivé au pouvoir depuis 2000.
Alors, on peut rappeler la date d'ailleurs de son arrivée au pouvoir.
Alors, 1998, ensuite il y a eu Lula au Brésil, il y a eu Evo Morales en Bolivie, Rafael Correa, etc., les Kirchner en Argentine, et qui a opéré un virage dans ce qui était auparavant la ligne de conduite de tous les gouvernements en Amérique latine, c'est-à-dire le modèle néolibéral. Bon. De sorte que, évidemment, il est rentré en contradiction avec la politique à l'époque de George W. Bush, et puis y compris celle d'Obama, puisque Obama, même si on peut le considérer comme beaucoup plus à gauche que Bush, n'est néanmoins pas considéré comme un président de gauche. Bon. Par ailleurs, il faut rappeler que le Venezuela est un pays producteur de pétrole, et qu'il a sur son territoire les plus grandes réserves de pétrole du monde. Donc à partir de là, on comprend les intérêts stratégiques de contrôler le Venezuela. Et par ailleurs, le Venezuela a fait des petits. On va prendre un simple exemple. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Chavez, l'organisme supranational dominant en Amérique latine était l'Organisation des États américains, l'OEA. Bon. Sous l'impulsion de Chavez et du président brésilien Lula, en 2008, a été créée l'Union des Nations Sud-Américaines, l'UNASUR, c'est-à-dire les 12 pays d'Amérique du Sud, donc sans les États-Unis, bien sûr. Et puis en 2011, la CELAC, la Communauté des États latino-américains Caraïbes, sans la présence des États-Unis et du Canada. Et donc, pour la première fois, l'Amérique latine s'émancipe, et tente une intégration dont elle rêve depuis des siècles, depuis les indépendances, qui là, s'est concrétisée à travers ces nouveaux organismes.
Alors, ce qui est curieux, Maurice Lemoine, c'est que, on va reparler brièvement de Barack Obama. Il a opéré un changement historique avec Cuba, on va en parler tout à l'heure, mais avec le Venezuela, il est dans une situation de crise, comme si l'Amérique devait toujours avoir un ennemi, en quelque sorte, en Amérique latine.
Bah, vous avez parfaitement résumé la situation. C'est paradoxal. C'est effectivement paradoxal puisque les États-Unis se rapprochent de l'ennemi historique, Cuba, et puis s'en prend maintenant à un Venezuela qui, il faut le rappeler, est un pays démocratique. Alors on peut éventuellement ensuite parler de la crise qu'il traverse depuis février 2014, mais c'est un pays où le président a été élu démocratiquement et où, y compris la fameuse répression dont on parle beaucoup depuis février 2014, est en réalité une crise majeure liée au fait qu'une partie radicale de l'opposition, je ne parle pas de l'opposition dans son ensemble, mais des radicaux de l'opposition, ont décidé depuis février 2014 de renverser Nicolas Maduro. Et donc la crise a pris évidemment une ampleur sans précédent, dans la mesure où on a pu parler en février 2014 de guérilla urbaine et non pas de manifestation étudiante. Je rappelle qu'il y a eu 8 policiers et gardes nationaux qui ont été tués par balle à ce moment-là. Ce qui explique effectivement la dureté de la situation. Le paradoxe, c'est que c'est pas uniquement dans le paradoxe Obama, les États-Unis contre le Venezuela, mais aussi s'est mis en difficulté avec l'Amérique latine. Autant son rapprochement avec Cuba avait d'une certaine manière assoupli les relations et satisfait tout le monde, autant l'attitude qu'il vient de prendre en déclarant que le Venezuela était une menace pour
la sécurité des États-Unis,
un truc absolument ahurissant, adressé contre lui non seulement l'UNASUR, non seulement la CELAC, la Russie, le G77 plus Chine, les non-alignés, c'est-à-dire les deux tiers des membres de l'ONU. C'est-à-dire, quand on parle de la communauté internationale, c'est
donc,
la communauté
193 états membres,
c'est
crois,
la communauté ouais. internationale, en fait, qui réprouve à la fois ce décret et qui demande à Obama de cesser les ententes avec le Venezuela. Donc, Obama s'est mis dans une situation objectivement un peu compliquée.
Parce que vous dites, Maurice Lemoine, qu'il n'est pas finalement libre de ses actes, qu'il y a des lobbies, qu'il y a des,
alors,
des lourdeurs, il y a des...
On essaie toujours d'analyser à travers ce qu'on peut observer dans les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. C'est vrai qu'Obama, par exemple, la première fois qu'il a rencontré ses pairs latino-américains lors du sommet de Trinidad et Tobago, Trinidad et Tobago, mm-hmm. en 2009, je pensais à Alain Bagot parce que je viens d'avoir une sciatique, excusez-moi.
Heureusement, tout va mieux.
Lorsqu'il a rencontré donc ses pairs pour la première fois en 2009, les relations se sont passées dans un contexte relativement sympathique, puisqu'il est arrivé, il a rencontré Chavez. Donc tout le monde attendait avec impatience la rencontre d'Obama et de Chavez, comme on attend aujourd'hui ouais. la rencontre Obama et Castro. Et ça s'est passé très simplement. Obama a dit Chavez en espagnol, y como estas. Et Chavez lui a répondu en anglais, I want to be your friend. Bon. Et Obama a dit aux latino-américains qu'il était là pour établir un dialogue d'égal à égal, pour un nouveau commencement. En même temps, à l'époque, il avait ajouté qu'il ne mettrait pas un terme à l'embargo à Cuba. Mais bref, ça s'était passé quand même d'une manière plutôt sympathique. Depuis, s'est passé des choses. Il y a eu le renversement d'un président démocratiquement élu au Honduras, Manuel Zelaya, dans lequel les États-Unis sont directement impliqués. Il y a eu le renversement de Fernando Lugo au Paraguay en 2012. Il y a eu une tentative de déstabilisation du président équatorien Rafael Correa en 2010. Il y a eu la grosse colère qu'a prise Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, qui n'est pas considérée comme une radicale, lorsqu'elle est découverte en 2015.
Elle était dégoûtée par la NSA.
Elle était dégoûtée par la NSA, donc elle a annulé une visite d'État à Washington. Il y a eu la grosse colère de l'ensemble des pays de la région lorsque la quatrième flotte américaine a été remise en œuvre, c'est-à-dire qu'elle va patrouiller sur les
croisées au large de l'Amérique latine.
Ouais. Il y a eu aussi une grosse colère du Brésil, du Venezuela, lorsque la Colombie a annoncé qu'elle mettait 7 bases militaires à disposition des États-Unis. Donc, la relation, elle est ambiguë. Elle change d'un jour à l'autre. Et les États-Unis ont manifestement du mal à prendre en compte tranquillement, au-delà des différences idéologiques, que l'Amérique latine est souveraine, qu'elle ne menace pas les États-Unis. Ni Cuba à l'époque, ni Venezuela, mais les États-Unis. Et donc on est en permanence dans une observation où on se dit mais tout ça n'est pas rationnel.
Une semaine d'actualité.
Et là, Maurice Lemoine, on va quitter un instant l'Amérique latine et partir à Bruxelles, ou plutôt en Grèce, car le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, était en visite à Moscou, donc nous irons aussi à Moscou. Et il n'a pas réclamé d'aide à la Russie pour faire face aux difficultés financières de son pays, mais quand même, ce voyage a été remarqué. Correspondance jeudi de Muriel Pomponne à Moscou, donc.
Alexis Tsipras quitte Moscou, riche d'une relation pleine de promesses avec le président Poutine. Celui qu'un journal russe surnomme ironiquement l'embargonaute n'a signé aucun accord et l'embargo n'a pas été levé. Mais Vladimir Poutine a expliqué à son jeune interlocuteur comment, en créant des entreprises conjointes, les marchandises grecques pourraient avoir accès au marché russe. De la même façon, en octroyant des crédits pour de grands projets, Moscou pourrait aider Athènes, tout en facilitant l'implantation des entreprises russes en Grèce. Un discours reçu 5/5 par Alexis Tsipras. Le courant est passé entre Alexis Tsipras et Vladimir Poutine, même si les Russes ont été étonnés par les manières parfois inattendues de la délégation grecque, quand, par exemple, le ministre grec de l'économie est entré en salle de négociation avec son sac à dos. Pour la presse russe, le premier ministre grec voulait surtout faire passer un message à Bruxelles. Vladimir Poutine a su prendre la balle au bond, sans contribuer officiellement à la division de l'Union européenne.
Suite d'une semaine d'actualité, Maurice Lemoine, aux États-Unis, cette fois, une manifestation contre les violences policières a été organisée à North Charleston, en Caroline du Sud, au lendemain de l'inculpation d'un policier blanc qui a tué un homme noir de 50 ans en lui tirant 8 balles dans le dos. Romain Lemaresquier, mercredi.
Barack Obama avait envoyé ces derniers mois son ministre de la Justice, Eric Holder, sillonner les villes du pays pour tenter de rétablir les relations entre forces de l'ordre et minorités. Mais cette nouvelle affaire de bavure policière risque à nouveau de tendre les relations entre la communauté afro-américaine et la police. La vidéo, tournée par un témoin, ne laisse pas l'ombre d'un doute. On y voit Michael Thomas Lager, un policier de North Charleston, tiré à 8 reprises dans le dos de Walter Scott, un afro-américain de 50 ans, alors que ce dernier tente de fuir. Une fois à terre, le policier policier lui demande de mettre les mains dans le dos pour lui passer les menottes. Scott Walker décède quelques instants après. Les faits se sont déroulés samedi dernier suite à un banal contrôle routier pendant lequel la victime aurait sorti une arme paralysante, selon le policier. Le maire de la ville a annoncé hier l'arrestation et la mise en examen du policier. Selon la presse locale, le mandat d'arrêt stipulerait que Michael Thomas Lager aurait illégalement et avec préméditation tué la victime. Cette nouvelle bavure policière s'est déroulée dans un état qui met en exergue la complexité du sujet. North Charleston compte environ 100 000 habitants, dont 47% d'Afro-Américains et 37% de Blancs. Or, 80% des policiers sont blancs, selon des chiffres datant de 2007. Un écart considérable en termes de représentativité, estime ce matin la presse américaine.
À noter aussi dans l'actualité internationale, la poursuite de l'offensive de la coalition conduite par l'Arabie Saoudite contre les rebelles Houthis au Yémen. Et repartons, Boris Lemoine, pour l'Amérique latine, avec le fait majeur du sommet de Panama, dont nous parlons aujourd'hui, la rencontre des présidents cubains et américains, une première depuis 1956. Il faut dire que les relations entre les deux pays se sont réchauffées depuis 2 ans. Hachim Lipold.
Des tractations secrètes entre Washington et La Havane ont commencé en 2013. Des rencontres de haut niveau se sont déroulées au Canada avec une médiation particulière du Vatican. Elles ont débouché sur la libération de prisonniers politiques de part et d'autre, annoncée le 17 décembre dernier, simultanément par Raúl Castro et Barack Obama. Cet accord a surpris tout le monde. Les deux présidents se sont déclarés prêts à rétablir les liens diplomatiques entre leurs pays. Depuis, il y a eu 3 rencontres officielles à La Havane et à Washington. Certaines sanctions envers Cuba ont été levées, mais il reste encore de nombreux obstacles, à commencer par la levée totale de l'embargo que seul le Congrès américain peut décider. Barack Obama, soucieux de son héritage, aurait souhaité voir flotter les drapeaux américains et cubains sur les ambassades respectives avant l'ouverture du sommet des Amériques. Il n'y est pas parvenu, mais le président a enclenché le processus et redorer son image en Amérique latine.
Maurice Lemoine, là c'est quand même la grande affaire, non seulement de ce sommet, mais de l'histoire tout simplement, sans être grandiloquent. Alors je précise que jeudi, John Kerry et le ministre des Affaires étrangères de Cuba se sont rencontrés déjà pour discuter. C'est un tournant là quand même.
C'est un tournant évident. Cela étant, ça va prendre du temps. Il est vraisemblable que ça va suivre son cours, mais ça va prendre du temps. Par exemple, le rêve d'Obama, on le sait, c'était que des ambassades soient ouvertes avant ce sommet des Amériques. Ils se sont heurtés à des problèmes aussi bêtes que celui que Cuba, du fait de l'embargo, ne peut pas disposer d'argent aux États-Unis et donc n'a pas les moyens de payer des fonctionnaires à ouvrir des ambassades. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. Ensuite, il y a un premier pas qui devrait être franchi assez rapidement, on en sent les prémices. C'est le retrait de Cuba de la liste des organisations qui soutiennent le terrorisme, qui là aussi était une aberration. Ensuite, se posera effectivement la question de l'embargo. La question de l'embargo, puisque c'est effectivement cela passé par le Congrès.
Alors le Congrès qui n'a pas envie de faire de cadeaux à Barack Obama. Voilà, hein, et il faut aussi parler du lobby, un vrai lobby.
Voilà. Alors il y a un lobby qui est cubain aussi. Il y a un lobby cubain qui est un lobby extrêmement réduit en réalité, parce que ce qu'on appelait traditionnellement les Cubains de Miami, oui, hein, c'est-à-dire les anticastristes, en fait ne représentent plus un obstacle à une normalisation des relations, dans la mesure où on en est là-bas quasiment à la deuxième ou troisième génération. Hein, ce sont plus les exilés historiques. Donc et puis il y a l'embargo. Donc l'embargo, il faut en finir avec l'embargo. Je rappelle quand même que la communauté internationale, tous les ans, devant l'Assemblée générale de l'ONU, à l'exception en général de 3 voix, les États-Unis, Israël et la grande puissance des îles Marshall, condamnent l'embargo contre Cuba. Donc il faudra un jour en finir avec cet embargo. On est à un moment où on peut penser que néanmoins cette procédure va avancer, y compris avec l'obstacle du Congrès, dans la mesure où les secteurs financiers des États-Unis y sont favorables. Le petit lobby qui reste d'anticastriste est de plus en plus isolé, mais il est très puissant. Il est très puissant et il a une capacité de nuisance. Si je pouvais faire une comparaison, qui est peut-être une comparaison idiote, je dirais que la capacité de nuisance de ce petit cercle d'anticastristes radicaux est le même poids que la capacité de Jean-Marie Le Pen à pourrir la vie du Front National.
Je vois ce que vous voulez dire et on va en parler dans quelques minutes justement. Merci pour la transition. On va se retrouver donc dans quelques minutes et on va écouter pour l'instant quelques nouvelles du monde où il sera sans doute question du sommet des Amériques, entre autres. À tout de suite, Maurice Lemoine. Avec une musique choisie, nous retrouvons 7 jours d'événements avec la rédaction. Merci pour toutes ces informations.
Une semaine d'actualité.
Maurice Lemoine nous accompagne, journaliste, spécialiste de l'Amérique latine. Il vient d'écrire « Les enfants cachés du général Pinochet ». On verra pourquoi dans un instant aux éditions Don Quichotte. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique. Rendez-vous également avec vos messages. Mais tout de suite, Maurice Lemoine, l'actualité française en quelques minutes. Et d'abord, le suicide d'un homme politique, Jean Germain, sénateur, ancien maire de Tours, à la veille d'un procès où il devait comparaître, Franck Alexandre.
Il m'est impossible d'accepter sans broncher cette forfaiture, a indiqué dans une courte lettre d'adieu le sénateur Jean Germain. Un suicide pour laver un affront donc, car cette affaire dite des mariages chinois était son cauchemar. Un détournement de fonds publics présumé, vécu par le sénateur PS de Tours comme un insupportable déshonneur. La justice lui reprochait d'avoir marié fictivement de 2007 à 2011 des dizaines de touristes chinois qui avaient payé au prix fort leur noce romantique dans le Val-de-Loire. Jusqu'au bout, l'élu a toujours clamé son innocence. D'ailleurs, l'enquête avait révélé que l'organisation de ces mariages n'était pas pilotée par le maire, mais par une société dirigée en sous-main par l'une de ses collaboratrices, Liz Han, d'origine taïwanaise. Au total, 6 personnes devaient donc comparaître ce mardi, mais dès l'ouverture de l'audience, Dominique Tricot, l'avocat de Jean Germain, a indiqué au tribunal l'absence de son client. Jean Germain est un martyr de la République, a ensuite tonné l'avocat, ajoutant « Il a été cité devant ce tribunal sur un tissu de ragot, il a été jeté aux chiens ».
Suite d'une semaine d'actualité et de nouveau du rififi dans la famille Le Pen, Maurice Lemoine, ça va vous intéresser. Après des propos du patriarche Jean-Marie dans les colonnes du journal d'extrême droite Rivarol, Jean-Marie Le Pen se dit trahi par les siens, attaque le Premier ministre Manuel Valls, l'immigré, répète que les chambres à gaz nazies sont pour lui un détail de l'histoire et réhabilite le maréchal Pétain, incarnation de la collaboration. Pierre Firsion.
Hormis Bruno Gollnisch, l'un des tenants de la vieille garde, les cadres du parti semblent d'une manière générale donner raison à Marine Le Pen. Stéphane Ravier, sénateur-maire de Marseille.
Jean-Marie Le Pen ne peut plus être notre tête de liste en PACA parce qu'il n'est plus du tout sur la ligne politique du mouvement.
Car pour Stéphane Ravier, comme pour nombre d'élus, Jean-Marie Le Pen a cette fois dépassé les bornes en réhabilitant l'ex-maréchal Pétain et en déclarant vouloir sauver l'homme blanc. Stéphane Ravier.
Je n'ai jamais entendu parler de France blanche ou de combat pour sauvegarder le monde blanc. Je voulais pas comprendre de tels propos. J'ai du mal à les imaginer dans la bouche de Jean-Marie Le Pen. Alors c'est une grande surprise et un grand désarroi.
Jean-Marie Le Pen peut-il dans ces conditions conserver sa place au sein de l'organisation frontiste? Si personne ne réclame à ce jour son exclusion, Fabien Angelman, le maire d'Ayange, appelle lui à une sanction exemplaire.
Moi personnellement, je pense qu'il ne devrait pas rester président d'honneur.
Son cas sera évoqué très prochainement en bureau exécutif puis en bureau politique. Nul doute que l'ère Jean-Marie Le Pen au FN touche à sa fin.
À suivre dans nos journaux, évidemment, suite d'une semaine d'actualité en France, avec mercredi une spectaculaire attaque informatique chez nos amis de TV5 Monde, Simon Rosé.
C'est une attaque de grande envergure. C'est de cette façon que la chaîne de télévision TV5 Monde a commenté le piratage dont elle a été victime. Et effectivement, dans la soirée de mercredi, le cyber Caliphate, un groupe se réclamant de l'organisation État islamique, a attaqué les antennes de la chaîne et pris le contrôle de ses relais vers les réseaux sociaux pour y diffuser des messages de propagande. Ce jeudi matin, TV5 avait repris la main sur ses comptes, mais n'émettait toujours pas normalement. Il faudra des heures, voire des jours, pour que la situation se rétablisse. Les système de la chaîne ayant été sérieusement endommagé tant l'attaque informatique a été violente. Ce n'est en tout cas pas la première fois qu'on entend parler de ce cyber caliphate. Il s'agit d'un groupe qui n'est pas un organe officiel de l'organisation État islamique et qui avait réussi en janvier dernier à prendre le contrôle du compte Twitter du centre de commandement américain au Moyen-Orient et en Asie centrale. En février, c'est celui de l'hebdomadaire américain Newsweek qui tombait entre ses mains pour quelques minutes. TV5 n'est pas le premier média français à subir une cyberattaque. Le site du journal Le Monde avait également été pris d'assaut il y a plusieurs semaines, mais l'offensive était venue cette fois de l'armée électronique syrienne, un groupe favorable au régime Assad.
Sept jours en France.
Et nous sommes toujours en compagnie de Maurice Lemoine qui vient d'écrire Les enfants cachés du général Pinochet, un livre publié aux éditions Don Quichotte. J'ai envie de vous poser une question sur la famille Le Pen, rupture entre la fille et le père. Je regrette qu'on n'ait pas suffisamment parlé, à rebours, à contrario, de la disparition mercredi d'un grand résistant et du meilleur historien de la France libre, Jean-Louis Crémieux-Brilhac. Je recommande vivement son ouvrage La France libre, plutôt que trop écouter Jean-Marie Le Pen par exemple. Que pensez-vous de cette situation qui a le mérite de montrer peut-être le vrai visage du Front National?
D'une certaine manière, je dirais peut-être à contrario de ce que souvent on peut entendre. Je pense que c'est un véritable tournant aussi pour le Front National, indépendamment de la sympathie ou de l'antipathie qu'on peut avoir pour lui, et qui va sans doute avoir des conséquences, mais je suis pas en mesure d'en mesurer l'ampleur. C'est-à-dire, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Front National va éclater entre une minorité attachée à un vieux réflexe de Jean-Marie Le Pen, antisémitisme, racisme, etc., et une extrême droite plus moderne, si je peux employer ce mot, de même que on emploie en Amérique latine l'expression coup d'État moderne. On est un petit peu dans les mêmes logiques, c'est-à-dire qu'on façonne l'image, on améliore l'image, sans pour autant devenir un parti tout à fait comme les autres.
Ouais. Alors on va repartir en Amérique latine, et avant de vraiment de repartir sur ce continent, Maurice Lebonne, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi vous dites à propos des journaux, des grands journaux et des grands médias, que l'international médiatique, je vous cite, est hostile à la gauche latino-américaine.
Je crois que c'est une réalité, si on prend dans l'ensemble, évidemment quand on parle des médias, il faudra ensuite affiner. Mais c'est une réalité. Bon, je vais simplement, pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément l'Amérique latine, remettre en parallèle, y compris l'attitude des médias par rapport à la gauche en France. Bon, lorsque par exemple l'on voit, peu importe les opinions de chacun d'entre nous, lorsqu'on voit par exemple les médias, quasiment l'ensemble des médias, mettre sur le même plan le Front National et le Front de gauche, il y a là un vrai problème. Or, c'est ce qui se passe avec l'Amérique latine. C'est-à-dire qu'on fait passer une gauche qui est une gauche authentique, qui a ses défauts, qui commet ses erreurs, mais une gauche authentique pour des régimes alors qu'on regroupe sous le vocable de populiste, qui ne signifie strictement rien, mais qui a le mérite,
c'est un mot fourre-tout,
pour ceux qui combattent ces gouvernements, d'introduire le doute, d'introduire la suspicion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle d'un gouvernement populiste, on se dit que c'est pas des gens tout à fait normaux, que c'est pas tout à fait moderne, que c'est pas tout à fait sain, de même que lorsqu'on vous dit que Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont des populistes, on a strictement rien expliqué, mais on a induit évidemment l'auditeur ou le téléspectateur ou le lecteur dans. Alors, je parlerai pas de manipulation, mais enfin, quand même, on n'en est pas loin.
En tout cas, vu de France, l'Amérique latine est loin, voire inexistante. Heureusement qu'il y a Maurice Lemoine, par exemple, pour nous parler de l'Amérique latine.
C'est un petit peu vrai. Enfin, je parle pas de Maurice Lemoine, je parle de l'Amérique latine qui est loin. Oui, c'est vrai. On s'y intéresse pas assez, et c'est dommage. C'est dommage, non pas que l'Amérique latine soit un modèle, tout le monde sait qu'en matière politique ou en matière de système économique, il n'y a pas de modèle, et qu'on ne peut pas transposer directement, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle l'Amérique latine agace, c'est qu'il y a eu là-bas une rupture franche avec le... Alors, je vais pas parler de la pensée unique, c'est la pensée dominante, les lieux communs, mais il y a une rupture avec le néolibéralisme pur et dur. Non pas que ces gouvernements soient des gouvernements socialistes, on en est encore loin, je veux dire la recherche des Chavez, des Rafael Correa, des Evo Morales, quand ils parlent de socialisme du 21e siècle, ils sont dans une recherche, ils sont dans une quête, plutôt que dans un fait réel, ce sont des pays encore dans un régime capitaliste, mais ils ont eu de mon point de vue, là on n'est pas obligé d'être tous d'accord, ils ont eu le courage de remettre un mot qui était un mot tabou sur la table, c'est le mot socialisme, qui a été évidemment complètement discrédité par les expériences du socialisme réel, mais qui par ailleurs ne devrait pas être un gros mot. Et eux ont eu le courage de dire, voilà, nous on cherche le socialisme du 21e siècle, c'est-à-dire un compromis démocratique, mais aussi économique et social, pour améliorer le sort des populations.
Alors, face à eux, Maurice Lemoine, qui sont ces enfants cachés du général Pinochet, qui donnent le titre à votre livre?
Oui, c'est alors pour tout le monde, ou en tout cas pour ma génération, le général Pinochet, c'est le symbole du coup d'État en Amérique latine.
Vous rappelez, 11 septembre 1973,
et puis même si l'image qui reste, c'est celle de Pinochet, il y a eu le Brésil en 64, la Bolivie en 71.
Tout ça est dans le livre d'ailleurs, c'est un livre d'histoire aussi.
Oui. Bon, ouais. Ça c'est les images qu'il y a de l'Argentine avec ses 30 000 morts et disparus.
La dictature.
Or, il se trouve que, sans qu'on y prête trop attention, Depuis le début des années 2000, il y a eu en Amérique latine la déstabilisation ou le renversement de plusieurs de ces présidents de gauche dont nous parlions un instant. Il y a eu Hugo Chavez, avril 2002, on est le 11, oui. On est le 11,
c'est
le 11 avril,
anniversaire.
C'est un jour anniversaire,
une tentative
de coup d'État. Il y a eu déstabilisation économique de Chavez en décembre 2012 et janvier 2013. Il y a eu ensuite un coup d'État en Haïti, auquel on ne va pas rentrer dans le détail, mais la France a participé de concert avec les États-Unis. Il y a eu ensuite une tentative de déstabilisation d'Evo Morales en Bolivie en 2008, renversement de Manuel Zelaya ou Honduras en 2009, tentative de déstabilisation de Rafael Correa, et c'est passé inaperçu parce que les coups d'État aujourd'hui sont beaucoup plus astucieux. Mais au bout du compte, la démocratie n'est pas plus respectée.
Et les mauvaises habitudes continuent.
Alors on pourrait m'objecter, on m'objectera, et je l'admets, que ces coups d'État sont moins sanglants qu'auparavant. On pourrait dire que c'est un progrès. Sauf que si l'on est attaché à la démocratie, on peut pas se contenter de ça.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons donc partir pour l'Afrique. Maurice Lemoine, avec d'abord cette information, la présidence française a décidé de déclassifier des documents sur le Rwanda, sur la période cruciale évidemment, 1990-1994. Pierre Pinto.
Si près d'un an a passé depuis le lancement de la procédure de déclassification des archives concernant le Rwanda entre 90 et 95, l'Élysée assure qu'aucun document n'a été retiré des cartons. Toutefois, il a fallu tout fouiller pour vérifier que les informations rendues publiques ne mettent pas directement de vie en danger ou ne portent pas atteinte à l'intimité des personnalités citées. Dans ces cartons, selon l'Élysée, des centaines de documents à disposition des chercheurs ou des journalistes, les notes du conseiller Afrique ou celles du chef d'état-major particulier du président Mitterrand, des compte rendu de réunions qui mettent au jour des divergences entre ministres. Selon l'entourage de François Hollande, dans l'ensemble, ces documents n'ont pas de caractère compromettant sur le rôle de la France au Rwanda à cette époque. Cela permettra d'évacuer les fantasmes, assure-t-on à la présidence. Ceux qui espèrent trouver des complots seront déçus. Fin de citation. Au sujet de l'opération turquoise déclenchée en juin 94 et accusée par Kigali d'avoir couvert la fuite des génocidaires, l'essentiel se trouve dans les archives des ministères de la Défense et des Affaires étrangères qui promet la présidence sont en cours de déclassification.
Alors à propos de cette décision de déclassification de documents portant sur la période 1990-1995, écoutez ce reportage à Kigali de notre correspondante Stéphanie Aglietti, mercredi.
Janvier Kagoro, 35 ans, pointe du doigt un pont enjambant les eaux brunes de la rivière Nyabarongo.
Ici, juste avant le génocide, il y avait un barrage tenu par les Français où tout le monde était contrôlé. Sur les vieilles cartes d'identité, la mention ethnique était inscrite. Et quand tu étais Hutu, on te laissait passer. Et quand tu étais Tutsi, on te mettait sur le côté. Et je ne sais pas ce qu'il se passait après.
Ce n'est qu'un témoignage. À prendre donc avec prudence. Il reflète toutefois le type d'accusation dont fait l'objet la France au Rwanda. Et pour janvier, la déclassification des archives du génocide va prouver qu'il dit vrai. Un peu plus loin, Rafiki, petite barbe et chemise, se réjouit aussi de cette publication, même s'il déplore qu'il ait fallu attendre 21 ans pour cela. Comme beaucoup, il a été mis au courant de cette annonce par les radios locales qui l'ont largement relayée. Assise devant une petite boutique fermée, comme toutes celles de la rue, en raison de la commémoration du génocide, Jeanne, une rescapée, accuse les Français d'avoir indirectement participé au massacre.
Ils ont tué. Ils n'ont rien fait pour sauver les Tutsis. Alors qu'ils avaient les capacités pour sauver.
Pourtant, selon Jeanne, ces archives n'apporteront rien. Au contraire, dit-elle, reparler de la responsabilité de la France ne fera que rouvrir les plaies de beaucoup de gens. Cette déclassification, c'est de la diplomatie, renchérit un jeune homme à sa droite, avant de conclure en secouant la tête, ça ne changera rien à la douleur des rescapés.
L'actualité africaine, c'est aussi le début de la campagne présidentielle au Togo, vote prévu le 25 avril, et au Burkina Faso, la décision des partis politiques favorables à Blaise Compaoré de se retirer des organes de transition pour protester contre la modification du code électoral qui leur interdit désormais de se présenter. Suite d'une semaine d'actualité avec la joie. On a commencé avec un sourire au Japon, on va terminer avec la joie des Gabonais. C'est en effet leur pays qui organisera la CAN en 2017, dans 2 ans. Donc, on parle évidemment de football. Maurice Lemoine, vous qui aimez le football, vous l'avez deviné. La bière a donc coulé à flot. Reportage mercredi d'Yves Laurent Goma.
Derrière l'Assemblée nationale du Gabon, c'est le quartier latin du poulet et du poisson à la braise. Ces deux garçons qui n'ont pas oublié les beaux moments de la CAN 2012 que le pays avait co-organisé avec la Guinée équatoriale sont venus avec leurs petites amies boire un verre pour fêter le retour de la compétition au pays.
Nous souhaitons que le Gabon arrive jusqu'au dernier carré, donc en finale. On reste très optimiste. On a confiance à notre 11 national. Je souhaite aux Panthères bonne chance.
Je remercie à Dieu qu'on a accepté que ça se passe au Gabon.
Ces deux autres étudiants qui mangent des brochettes de viande avec du riz à la tomate laissent aussi éclater leur joie.
Une très très bonne nouvelle et on espère que ce sera une grande fête comme en 2012.
Les tenanciers de nombreux maquis qui se succèdent et où l'odeur de la viande se mélange avec celle du poisson sont également en joie. La CAN au Gabon, c'est une bonne nouvelle pour booster leurs affaires.
Avec le tourisme et tout ce qui comporte la CAN, ça va booster les affaires. Forcément, c'est une grande joie pour nous.
Ça permettra au pays de se développer et puis ça va favoriser les entrées et tout sur le plan touristique et ainsi de suite.
Cette belle ambiance ne fait cependant pas oublier les difficultés de la vie quotidienne.
Avant d'organiser un événement heureux, il faudrait d'abord voir les problèmes qui minent le pays. On sait que tout va mal dans le pays.
Crise ou pas, quelques Gabonais pensent que la CAN 2017, c'est déjà dans la bouche.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
C'était notre adresse électronique. Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Salut à quelques auditeurs qui nous ont envoyé des courriels. Maurice Lemoine, c'est une tradition dans cette émission. Bonjour par exemple à Fiacre, à Bangui. Il souhaiterait que les Afghans qui ont travaillé avec l'armée française, notamment en matière de renseignement, soient accueillis en France. Il y a, écrit-il, un proverbe africain qui dit « N'abandonne jamais une vieille pirogue qui t'a aidé à traverser le fleuve ». Bonjour à Hippolyte Éric, spécialiste des questions de conflit à Yaoundé. Que les présidents africains prennent acte de ce qui s'est produit au Burkina Faso et au Nigeria, note-t-il. Bonjour à Boukari Oma, il salue son frère Béchir à Tunis. Un petit bonjour également à Kimou, doctorant togolais en sciences de l'éducation à l'université de Lomé, où il est aussi professeur d'histoire et de géographie. J'exhorte le gouvernement à satisfaire les revendications sociales en vue d'une élection présidentielle apaisée et démocratique. Enfin, un salut à un auditeur Facebook, Mahamad Cherif, depuis Moundou au Tchad. Notre chère capitale N'Djamena a enfin de l'électricité, écrit-il, mais pour combien de temps? Ça, c'est une question. Et je profite pour dire bonjour à Moustapha Brahim à N'Djamena et à ma mère Ashta à Abéchu.
Une semaine d'actualité.
Vous voyez, Maurice Lemoine, nous sommes en contact constant avec nos auditeurs, qui nous parlent de leur vie aussi et de l'actualité.
Qui, d'une certaine manière, nous ramène à l'Amérique latine.
Bien sûr.
Parce que quand on se parle du Burkina Faso, il y a un fameux Thomas Sankara qui ressemble beaucoup à Hugo Chavez du Venezuela.
Oui, c'est vrai, exactement. Et d'ailleurs, il est encore d'actualité, plus que jamais, Thomas Sankara, avec les événements qui se sont produits dans le pays. Qu'est-ce que, dans votre livre, alors j'ai oublié de le dire, c'est à la fois un livre de voyage, un livre d'histoire, un livre d'analyse politique, très agréable à lire. On voyage avec vous sur un continent que vous aimez beaucoup et que vous connaissez parfaitement, je le redis, même si vous êtes modeste. Qu'est-ce que là, alors je ne sais pas si je vais arriver à dire le mot, la transition démocratique.
Voilà. Alors, bon, il y a eu...
Il y a transition démocratique, mais là, voilà. C'est la transition démocratique.
Lorsque les pays d'Amérique latine sont sortis des dictatures, dans les années 80, après avoir subi 2 décennies de plomb, hein, réellement, avec un lot de victimes absolument terrible, épouvantable. On a parlé de transition démocratique et tout le monde a respiré. Tout le monde a respiré en se disant, enfin, vous savez, comme on s'ébroue après avoir porté des chaînes. Bon, et c'était effectivement un progrès fantastique. Sauf que pour les États-Unis, qui à ce moment-là ont considéré que les dictatures n'étaient plus à l'ordre du jour, il était évident que ce retour à la démocratie devait coïncider à un retour de la démocratie de marché, c'est-à-dire qu'elle devait favoriser le marché. Et dans l'euphorie de la sortie de la dictature, alors que la plupart des forces de gauche avaient été laminées par la répression, par la mort, par la torture, par la disparition, que beaucoup de cadres étaient en exil en Europe ou dans d'autres pays, s'est installé le modèle néolibéral. Alors, moi je suis pas ici pour faire de l'idéologie, hein, je vais donner deux chiffres. Pendant toute la période dans laquelle s'est installé ce modèle, donc avec tout le cortège des privatisations, des régulations, enfin
des plans de réajustement.
Ouais, des plans de réajustement structurel. On est passé en Amérique latine de 120 millions de pauvres en 1980 à 225 millions à la fin des années 90. C'est-à-dire qu'on a doublé la pauvreté. C'est pas une affaire idéologique, hein, ce sont des chiffres réels qui sont les chiffres de la Commission économique pour l'Amérique latine de l'ONU. Bien. Donc, sur le plan social, on a eu une catastrophe. Le tout sous couvert de démocratie. Bien. Et c'est ce cycle terrible qui a été mis à mal par l'arrivée de dirigeants atypiques. Dans la mesure où, pendant toute cette période, tous les partis qui ont gouverné, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce que des partis de gauche ont gouverné, tous ont appliqué ce modèle. De sorte qu'on est arrivé à la fin des années 90 avec tous ces partis traditionnels totalement déconsidérés. Si je faisais une comparaison là encore sur lequel on va être prudent, mais on était à l'époque en Amérique latine dans la situation où on en est aujourd'hui dans l'Union européenne, lorsqu'on voit chez nous des taux d'abstention comme celui qu'on voit en ce moment. Je rappelle une chose, on peut aimer ou ne pas aimer Chavez, on peut le critiquer. Il a été avant sa mort, il a été réélu pour une dernière fois en octobre 2012 avec 55% des voix et 81% de participation. Il y a là un phénomène sur lequel les Européens devraient réfléchir. Qu'est-ce qui a changé ? Là encore, au-delà des méthodes, je prends l'ensemble. Depuis la fin des années 90, l'ensemble de ces pays de gauche ou de centre-gauche ont sorti de la pauvreté 56 millions de personnes. Si vous prenez le Venezuela, on est passé de 60% de pauvreté en 96 à 48% en 2002 à 19,6% aujourd'hui. L'Équateur, on est parti de 45%, on est à 25%. Bon, je pourrais multiplier les chiffres. Hein, bon. On est donc, avec la présence de ces gouvernements dits populistes, dans un moment historique dans lequel on sort de la malédiction de la pauvreté, et tout ça dans un cadre démocratique. Hein, on a longtemps reproché à Cuba, on disait oui d'accord, la santé, l'éducation, mais c'est pas très démocratique. Là, on est dans un cadre démocratique. J'ajoute que ces résultats ont été spectaculaires. Ils sont aujourd'hui remis en cause, y compris en danger. On voit la crise économique qui s'abat sur le Brésil, plus des problèmes de corruption. On voit
le prix des matières premières,
l'effondrement des prix du pétrole qui touche le Venezuela, l'Équateur, le Mexique, la Colombie, mais aussi l'Angola, hein, puisqu'on parlait de l'Afrique. Donc voilà, rien n'est acquis. Mais il y a eu une période un peu magique en Amérique latine, avec des chefs d'État atypiques, tous sortis du dehors de la classe politique traditionnelle. Chavez, ancien militaire, ce qui explique qu'on était méfiant au départ, et on avait raison. Hein. Bon, puis c'est avéré que Evo Morales, ancien syndicaliste, Lula, ancien syndicaliste, Correa, économiste inconnu.
Donc des mesures sociales ont été prises, manifestement, dans ces différents pays, malgré les difficultés. Maurice Lemoine, est-ce qu'on pourra un jour arriver à des relations normales avec les États-Unis, avec ce continent Sud-Amérique? Parce que votre livre, c'est aussi le rappel des ingérences et coups tordus des États-Unis depuis des décennies. On a l'impression que ça évolue, que maintenant les méthodes ont changé, mais que finalement les ingérences continuent. C'est notamment sur le plan économique.
C'est très difficile.
On se souvient des écoutes de la présidente, on y faisait allusion tout à l'heure, de la présidente brésilienne par la NSA.
C'est évidemment l'espoir de tous, y compris dans l'intérêt des États-Unis, hein, qu'on appelle souvent américain, mais un Péruvien est américain aussi, donc des États-Unis. Tout le monde rêve d'un monde harmonieux. Ensuite, il est évident que la ligne de partage, c'est quel modèle économique. À partir du moment où le modèle néolibéral capitaliste, appelons-le comme on veut, voit avec beaucoup de méfiance et y compris tente de se débarrasser de toute tentative de sortir du cadre, il est difficile d'avoir des relations normales.
Mais des relations qui seraient apaisées, entre guillemets, avec Cuba vont peut-être changer les choses.
Qui pourraient être apaisées. D'ailleurs, le sommet dont nous soulignions au départ l'importance, mais aussi les contradictions, on va sans doute avoir entre une partie de l'Amérique latine, le Venezuela et Obama, une tension, mais une tension contrôlée. Hein, d'ailleurs, y compris d'ailleurs, on l'a vu, Obama a fait un peu un rétro-pédalage en disant mais non, le Venezuela... Non. Donc on va avoir une tension contrôlée, et tout le monde, en fait, en réalité, a intérêt en Amérique latine, et demande, lorsqu'on voit Chavez, Maduro, Correa, Evo Morales attaquer durement les États-Unis, c'est pas les États-Unis, c'est pas les habitants des États-Unis, c'est un modèle économique qu'on veut leur imposer.
Merci Maurice Lemoine. Je recommande votre livre qui s'intitule Les enfants cachés du général Pinochet, publié aux éditions Don Quichotte, que vous avez écrit en pensant aux nouvelles générations aussi. Hein.
Oui, beaucoup, parce que je me rends compte que dans les débats, les conférences, les réunions organisées sur l'Amérique latine, il y a beaucoup de, je vais pas dire de vieux, ça serait pas bien, mais il y a peu de jeunes.
Ouais. Bon. Et c'est eux qu'il faut intéresser.
Et c'est eux qu'il faut intéresser, bien sûr.
Une semaine d'actualité réalisée, évidemment, par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain dimanche pour le magazine Idée. Nous allons vous proposer une rencontre avec Beate et Serge Klarsfeld, qui toute leur vie ont chassé d'anciens nazis pour qu'ils soient jugés, notamment en Amérique latine, vous le savez parfaitement, Maurice Lemoine, Klaus Barbie, pour ne pas le citer, entre autres, Mengele aussi. Ils publient leur mémoire, nous sommes allés les voir. Donc demain, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.